Chapitre 2. Le fauconnier. Les semaines passèrent. L'été arrivait à ses derniers jours. Le soleil, moins chaud, ne brûlait plus la campagne, mais il réchauffait encore le vilain qui marchait derrière la charrue de l'aube jusqu'au soir. Devant les bœufs, des compagnies de perdreaux couraient sur la terre brune et l'homme songeait à la marmite, si pauvre, où bouillait la soupe de fèves. Mais le seigneur préparait de grandes chasses. Ce n'était pas le moment de braconner. Les collets étaient interdits à cette époque de l'année. Ainsi donc, mieux valait manger son pain en pensant à autre chose. Martin, quant à lui, n'avait pas oublié tout à fait son inquiétude. Elle avait été forte, elle l'avait tourmentée longtemps. Combien de fois la nuit n'avait-il pas vu en rêve le visage terrible du fauconnier, sa main gantée de cuir, sa joie féroce en découvrant le coupable? L'enfant se dressait alors sur son grabat, haletant, le regard égaré. Parfois même, un cri lui échappait, et la mère soucieuse se demandait si son fils n'était pas possédé du démon. Puis il y pensa un peu moins. Tous les soirs, à l'heure où les hobereaux aiment partir en chasse, il courait à la vieille maison. Un reste de crainte lui faisait inspecter les abords avant d'entrer. Il contournait les murs croulants, prêtait l'oreille, n'entendait rien. Au flanc du coteau, des vendangeurs attardés cueillaient les dernières grappes. Un troupeau de moutons s'en revenait au village. Un muletier chantait. Il y avait sur toute la campagne comme une grande paix. Et pourtant, à chaque rendez-vous, la crainte se changeait en angoisse au moment d'entrer dans la masure. S'il n'y était plus, se disait Martin, si on l'avait découvert. En général, cette pensée emportait ses dernières hésitations. Il se jetait à l'intérieur, écartait les branches de sureau qui cachaient dans un creux de la muraille son trésor interdit, une cage en verge de saule tressée. Dans cette cage, le plus beau faucon hobereau que seigneur pût désirer. Une tête fine, ornée de deux moustaches noires, un ventre ivoire rayé de sombre, des pattes jaunes vives dont les serres égratignaient l'écorce du perchoir. Des ailes surtout, magnifiques, longues, pointues, bordées d'encre. « Tu es brave, mon faucon !» Martin ne pouvait contenir sa fierté. Lui, le petit cerf aux pieds nus, il enlevait son surcot, l'enroulait autour de sa main, ouvrait la cage et recevait sur son poing le rapace dompté. « Viens, mon doux, viens, tu vas manger !» Un soir, comme tous les autres soirs, il faisait presque nuit. Près de la ruine, la mare reflétait le ciel encore clair entre les feuillages. Le soleil s'était longtemps attardé à la crête des collines, mais il avait disparu enfin. Le seigneur était rentré de la chasse. Il y avait même ce soir-là un troubadour au château. Martin l'avait rencontré en chemin. Que pouvaient craindre les deux amis? « Va, mon beau, va, et reviens !» Le hobereau déploya ses ailes, et cela fit un froissement soyeux à peine perceptible. Déjà, elle s'était enlevée. Plus rapide que le martinet qui allait y perdre la vie, plus silencieux que la chauve-souris engloutie en plein vol, il sillonnait le ciel. Martin le suivait des yeux, taraudé d'incertitude quand il se fondait dans l'air du soir, plus alarmé encore quand il volait en direction du village où les gens du château pouvaient le remarquer. Pourquoi va-t-il si loin? Il se fera découvrir. Le jeune garçon modula un sifflement très doux, très long, qui était un ordre pour l'oiseau. Puis il attendit, d'interminables secondes. Une amitié se jouait dans ce temps si court qui paraissait un siècle à Martin. Reviendra-t-il? S'il ne revenait pas. On dit les hobereaux fantasques. Maints d'entre eux ont résisté au dressage. Peut-être l'ami va-t-il préférer la liberté. Martin sentait son cœur qui battait, qui battait. Il fixait le ciel de plus en plus sombre, il attendait. Cette attente inquiète, renouvelée tous les soirs, l'épuisait et l'excitait comme un jeu dangereux. Et puis son cœur se dénoua, ses yeux douloureux de tant fixé la nuit retrouvèrent le battement de leurs paupières. Car un point sortait de l'ombre, plus noir qu'elle. Il grossit, il prit forme. Il avait deux ailes, il approchait. « C'est lui !» Martin, gonflé de joie, tendit son bras et reçut le faucon qui s'y posa en silence. « Tu m'as fait peur, grand diable, tu me fais toujours peur !» D'un doigt, il lissa les plumes de la tête sur cette traînée plus claire au-dessus de l'œil qui ressemblait à un sourcil froncé. L'oiseau se laissa caresser. Il avait mangé à satiété, il était repu, et cette amitié qu'il donnait, il l'avait librement consentie. « Tu ne seras jamais un tueur comme les faucons du chevalier Guilhem, lui murmura Martin. « Je te cacherai si bien que personne jamais ne te retrouvera. Tu ne tueras que pour manger. Il le faut bien puisque tu es né rapace. Mais pas de ces massacres que le Seigneur aime tant. Nous resterons amis tous les deux. Je t'en prie, ne va pas trop loin. J'ai si peur que tu ne reviennes pas. » Maintenant que l'oiseau avait mangé, c'était le moment de jouer, le moment que préférait Martin. Il lança le faucon et courut à toutes jambes jusqu'à la ruine. Au-dessus de sa tête, les grandes ailes battaient l'air et planaient, calquant leur vitesse sur la sienne. Martin était essoufflé, mais il courait toujours. Le jeu devait durer longtemps. Il ne cessa qu'au pied de la colline, là où la ruine dissimulait le secret au bord d'un marais fangeux. L'enfant y arriva hors d'haleine. Il se coucha sur le dos, face au ciel, les bras en croix, pour mieux regarder l'oiseau qui décrivait des cercles patients, en attendant que s'offrit de nouveau le point sur lequel il avait l'habitude de se poser. L'air du soir séchait la sueur sur le torse nu de Martin, qui tressaillit de froid et d'orgueil. « Personne, jamais ne nous séparera. Personne !» L'enfant se releva et tendit son bras. Une nouvelle fois le sifflement, mais plus bref, plus impératif. Le hobereau descendit et se percha. Ses griffes se crispèrent sur le surcot, sans le déchirer, sans en traverser la toile. Martin, tout fondant de reconnaissance, posa un baiser sur le crâne lisse. « Allons, il faut rentrer. Fini la promenade. Demain, je reviendrai. Nous irons très loin tous les deux, jusqu'aux collines de Montmort. Il faut que je parte. La mère s'inquiéterait si je tardais encore. » Martin avait besoin de se rassurer, de murmurer mille promesses qui préviendraient peut-être le destin. Tant de dangers à éviter, tant de colères si on les découvrait. Elle avait eu si peur, la mère, le jour où elle avait éventé le secret. Pauvre femme qui était toujours à trembler. Une fois, à cause des soldats, une autre fois pour les récoltes, et maintenant parce que son fils s'était mis dans la tête de dénicher un oiseau de proie qui disputait au Seigneur. « N'y pensons plus, » se dit l'enfant. « Personne, jamais, ne saura. » La vieille maison était là, accroupie au bord de l'eau, faiblement éclairée par la lune. Elle était paisible et rassurante. Pas un bruit ne sortait de ses murs. Pas un mouvement de feuilles ou d'herbes ne venait apporter de vie. Même le vent s'était assoupi. Tout était calme. Martin écarta les ronces, il escalada les pierres roulantes et entra et s'arrêta soudain. Un homme se tenait immobile près du sureau. Le garçon, malgré la nuit maintenant close, ne put douter de son malheur. Il venait de reconnaître le fauconnier du château. « Je t'attendais. » L'homme ne bougeait toujours pas, noir dans le clair de lune, la cage renversée à ses pieds. On aurait dit une apparition effrayante. « J'ai découvert ton audace, » dit-il. « Comme cela, par hasard. Un hasard que j'ai aidé, d'ailleurs, car rien n'échappe à ma vigilance. J'aime me promener dans la campagne. On y découvre des choses qu'un fauconnier doit savoir s'il veut rester à la hauteur de sa tâche. » Il prenait son temps. Il tenait enfin le croquant indocile, et il ne dédaignait pas de savourer cette situation dans laquelle il était le plus fort. « Ne compte pas sur mon indulgence, je n'en aurai pas. Depuis quand les cerfs dénichent-ils des faucons ?» Martin, d'abord, demeura sans voix. Sa surprise avait été trop grande, et sa frayeur aussi. Sur son poing levé, l'oiseau avait l'immobilité du bronze. « Tu sais qu'ils appartiennent au Seigneur, » reprit le fauconnier. Et tu sais aussi comment on punit ceux qui osent désobéir. Je ne l'ai pas déniché, je voulais seulement le voir.
Le voir ?
Oui, le voir. Il est tombé du nid. Je l'ai ramassé dans les herbes. Je ne pouvais pas le rapporter au nid. Les parents étaient furieux.
Ce n'était pas au nid qu'il fallait le rapporter, vaurien. C'était au château.
L'enfant comprit qu'il n'arriverait pas à le convaincre. Je vous prie, maître fauconnier, laissez-le-moi. « Je vous trouverai d'autres oiseaux, mais laissez-moi celui-ci. »«
De quel droit aurais-tu ce privilège? Tous les faucons sont nécessaires aux chasses du Seigneur. »«
Mais celui-ci ne sait pas chasser. Il n'a jamais été dressé pour cela. »«
Il le sera. »«
Il le sera ?»«
Oui. »«
Jamais !» Une colère froide s'était emparée de Martin, une rage démesurée d'enfant privé de son bien. À quoi bon expliquer, se justifier, puisque la partie était perdue d'avance? Il serra l'oiseau contre sa poitrine et de sa main nue, il arracha trois rémiges d'une aile. « Il ne volera plus » cria-t-il aussi fort qu'il put. « Il ne servira pas !»